Le journal, présenté par Bruno Cadenne.
Bonjour à tous. La Grèce se dirige-t-elle vers la sortie de l'euro? C'est la grande question depuis l'arrêt des négociations hier entre les ministres des Finances de la zone euro et la Grèce. Nous ferons le point dans ce journal depuis Bruxelles, Athènes et avec ici en studio Marie Viennot qui suit pour nous ce dossier. Le terrorisme également à la une de ce journal. Nous entendrons Manuel Valls, le Premier ministre, parle ce matin de guerre de civilisation et de menace terroriste majeure qui va durer. En Tunisie, la plage du massacre près de Sousse est à nouveau ouverte aux touristes. Un rassemblement a eu lieu sur place il y a quelques instants. En Syrie, les Kurdes ont repris la ville de Kobané à la frontière avec la Turquie 48 heures après une offensive du groupe État islamique et les djihadistes ont eu le temps de massacrer plus de 200 civils dont des femmes et des enfants. À force de parler de réunion de la dernière chance qui se terminait toujours bien, l'Union européenne s'était peut-être habituée au happy end obligatoire. Mais hier soir, le scénario bien huilé a dérapé. Le bras de fer s'est terminé par une rupture brutale des négociations entre la Grèce et les 18 autres pays membres de la zone euro. C'est donc la stupeur à Bruxelles. Pierre Benazé, bonjour.
Bonjour Bruno.
Vous êtes en direct de Bruxelles et vous avez vécu hier le scénario catastrophe et les crises de nerfs.
Oui, effectivement, l'annonce du référendum grec dans la nuit par Alexis Tsipras a sonné comme un coup de tonnerre au sein de l'Eurogroupe et la plus grande confusion régnait d'ailleurs ici il y a 24 heures avant le début de la réunion avec d'une part une incrédulité consternée de beaucoup, la volonté de quelques-uns comme la Commission, la France ou le FMI de continuer à négocier malgré tout et le sentiment de la plupart que tout était consommé. Le ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, leur a formellement confirmé que le gouvernement appellerait à voter non. Du coup, ses homologues européens ont rejeté à une très large majorité sa demande d'une extension du programme d'aide pour une ou deux semaines, le temps que le référendum se tienne. Le résultat, c'est que l'offre d'argent frais contre réforme est désormais caduque. Il n'y a plus rien sur la table des négociations, puisqu'il n'y a plus de négociations. Et le retrait de l'offre signifie aussi que le référendum portera sur un texte déjà dépassé hier et qui n'existe plus aujourd'hui. Après ce verdict prévisible de ses partenaires excédés, Yanis Varoufakis est rentré à Athènes, informer son Premier ministre que son dernier coup de poker, comme on a dit ici, avait fait long feu. Et ses homologues, ministres des Finances, ont continué à 18, sans lui, essentiellement pour se rassurer sur le fait que l'absence de contagion d'une crise grecque, qu'il n'y aurait pas de contagion de la crise grecque pour le reste de la zone euro. La Grèce va donc se retrouver en défaut de paiement mardi, puisqu'elle ne peut plus espérer d'aide et qu'il lui reste juste ses échéances à honorer. Alors la seule lueur d'espoir pour la Grèce, en partie, ce serait que la Banque Centrale Européenne poursuivre malgré tout son programme d'assistance aux banques grecques. Mais pour cela, il faudrait probablement au moins que le gouvernement décrète la fermeture des banques grecques jusqu'à nouvel ordre.
Pierre Benazé, merci. Vous étiez en direct de Bruxelles. Pendant ce temps en Grèce, le Parlement grec a voté hier la tenue d'un référendum sur les propositions des créanciers. Un vote obtenu grâce aux voix des députés de Syriza, des souverainistes de droite et des néo-nazis d'aube dorée. Ont voté contre les conservateurs de la Nouvelle Démocratie, les socialistes du PASOK, les communistes et les centristes de Potamie. Dans le pays, les Grecs ont commencé à faire la queue devant les distributeurs de billets, mais sans panique pour autant. À Athènes, le récit de notre envoyée spéciale Isabelle Chailloux.
Il n'y a pas de panique bancaire à proprement dit, en tout cas pas comme on l'imagine, pas de frénésie pour l'instant autour des banques. Mais c'est vrai qu'il y a des files d'attente autour de certains distributeurs dans des quartiers centraux d'Athènes et dans d'autres villes du pays comme à Thessalonique. Ce sont des mouvements diffus, souvent des retraits de précaution de quelques centaines d'euros. Cela dit, le patron d'un petit hôtel nous a quand même expliqué qu'il avait retiré plusieurs milliers d'euros en liquide pour être sûr de pouvoir payer ses 4 employés en cash sans avoir à passer par un virement bancaire, car il craint que les banques grecques soient obligées de fermer dans les jours qui viennent. Une de ces banques grecques, Alpha Bank, annonce d'ailleurs sur son site internet que des travaux de maintenance empêchent les transactions informatiques jusqu'à lundi. En fait, il y a des mois que les Grecs anticipent un éventuel contrôle des capitaux. Les plus fortunés ont d'ores et déjà placé leurs avoirs à l'étranger, dans d'autres pays de la zone euro. Depuis le début de l'année, près de 31 milliards ont été retirés des banques grecques et le mouvement s'accélère. Plus de 3 milliards de retraits ces 10 derniers jours, 600 millions ces dernières 24 heures.
Et maintenant, quel avenir pour la Grèce et pour la zone euro ? Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi ce dossier grec depuis de longs mois. Peut-on dire que la Grèce est d'ores et déjà en défaut de paiement et de facto en train de sortir de la zone euro ?
Alors non, pas encore. Déjà, le défaut de paiement n'est pas constaté à l'heure qu'il est. Il le sera après-demain à minuit si la Grèce n'arrive pas à rembourser au FMI les 1,6 milliard d'euros qu'elle lui doit. À ce moment-là, le FMI lancera une procédure pour constater le défaut de paiement, mais cela n'aura pas d'effet économique. Le 30 juin, c'est aussi la fin officielle du deuxième plan d'aide à la Grèce, celui qui avait été décidé en 2011. Sans accord pour le prolonger, ce qui semble se profiler, donc la Grèce ne touchera pas les 7 milliards qui avaient été promis en échange de nouvelles réformes. Elle ne pourra donc pas faire face à ses prochaines échéances de dette. Or, il y a 18 milliards d'euros à débourser jusqu'à la fin de l'année, après le défaut au FMI. Donc, d'autres défauts de paiement suivront vis-à-vis de la Banque Centrale Européenne notamment. Mais rien ne l'oblige à sortir de la zone euro pour autant. Il n'est écrit nulle part dans les traités que quand on fait défaut de paiement, eh bien on doit sortir de la zone euro. C'est pour cela que l'on navigue en terre inconnue. Il n'y a pas de précédent.
Alors Marie, aujourd'hui le Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne se réunit pour tenter de gérer ce scénario catastrophe, mais que peut faire la BCE ?
Alors justement, la sortie de la zone euro est entre les mains de la Banque Centrale Européenne. Depuis plusieurs mois, la BCE apporte aux banques grecques les liquidités qui leur permettent de faire tourner l'économie, c'est-à-dire remplir les distributeurs, faire des crédits, régler des transactions. Ce que peut décider la BCE aujourd'hui, c'est soit de continuer cette assistance, soit d'arrêter. Continuer ne résoudrait pas tout, mais cela ferait gagner du temps. En revanche, si cette assistance cesse, il y a un risque que l'économie grecque s'arrête net. Et pour éviter cela, le gouvernement sera sans doute obligé d'émettre, via la Banque centrale grecque, une monnaie parallèle à l'euro pour que l'économie tourne encore. Et là, on pourra dire que ça y est, la Grèce est sortie de l'euro. Voilà pourquoi la réunion de la BCE aujourd'hui est cruciale et que je ne ferai aucun pronostic.
Marie Viennot, merci. Manuel Valls a estimé ce matin que la Banque Centrale Européenne, justement, ne pouvait pas couper les vivres aux Grecs. Invité du grand rendez-vous européen ITL Le Monde, le Premier ministre a également assuré que la France ne serait pas affectée par une sortie de la Grèce de la zone euro, mais qu'il fallait tout faire pour que la Grèce reste dans l'euro et que les négociations reprennent. Sur le terrorisme, Manuel Valls a parlé de guerre de civilisation et a mis en garde contre une menace terroriste majeure qu'il faudra combattre dans la durée. Manuel Valls, ce matin sur Europe 1.
On ne peut pas s'habituer à la violence, à la barbarie, à la mort. Aucun peuple, aucun individu ne peut s'habituer à cela. Et laissez-moi rendre hommage, bien sûr, à la victime, Hervé Cornara, comme à toutes les victimes du terrorisme, et je pense à celles de Sousse comme au Koweït. Mais on ne peut pas s'habituer. Mais en revanche, un responsable gouvernemental doit être lucide et doit faire partager cette lucidité à son peuple et à ses compatriotes. Nous vivons sous une menace terroriste majeure. Et cette menace terroriste, elle va durer. Et nous devons savoir que nous devons combattre et que nous allons combattre dans la durée ce terrorisme qui ne concerne pas uniquement la France, qui concerne d'autres pays d'Europe et qui concerne, Jean-Pierre Elkabbach, vous venez de le dire, le monde, puisque Daesh, ces organisations terroristes, ces succursales au Yémen, au Sahel, dans d'autres pays, veulent combattre nos valeurs, non pas les valeurs de l'Occident, mais les valeurs humanistes,
est-ce que
les valeurs qui sont universelles.
Pendant ce temps, l'enquête sur l'attentat de Saint-Quentin-Fallavier avance. D'après l'agence France-Presse, le suspect Yacine Sali aurait reconnu avoir tué son patron. Après avoir été hospitalisé à Lyon, il a été placé en garde à vue vendredi soir. Il aurait également donné des informations sur les circonstances de cet assassinat. Choqué par la sauvagerie de l'attaque contre l'hôtel de Sousse, les Tunisiens tentent de relever la tête. Hier soir, les habitants de Sousse ont défilé sur la corniche de la ville pour affirmer leur dégoût du terrorisme. Mais conséquence directe, le tourisme tunisien risque de souffrir avec des départs d'étrangers. Anne Lamotte, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct des lieux mêmes du drame sur cette plage près de Sousse. Et déjà, cette plage est à nouveau ouverte aux vacanciers. Une plage où Anne Lamotte vient en fait de se dérouler un rassemblement.
En effet, il y a quelques minutes, on a vu un groupe d'une cinquantaine de personnes avec un grand drapeau tunisien, ce drapeau rouge tunisien. On a vu ce groupe arriver sur la plage. Il s'agit en fait du personnel des hôtels alentours et de touristes qui ont tous le même message. N'ayez pas peur de venir en vacances ici, mais pas sûr que les clients de l'Impérial Maraba soient tout à fait dans le même état d'esprit. La plage est rouverte, c'est vrai, vous l'avez dit, mais on a aperçu quoi ? 3-4 clients seulement s'aventurer sur cette plage depuis ce matin. En tout cas, il n'y a plus, c'est vrai, de cordon de sécurité. On a vu ce matin le personnel de l'hôtel ôter les très longs cordons de sécurité. Vous savez, ces cordons en plastique noir et jaune qui délimitaient la zone de crime, la zone interdite. Ces cordons qui entouraient les dizaines de transats et de parasols en paille réservés aux clients de l'établissement. On a aussi réarrangé les transats qui étaient renversés depuis l'attaque. On a jeté les bouteilles d'eau qui traînaient encore sur le sable, les magazines, également les livres qui étaient restés ouverts au pied de certains parasols depuis l'attentat de vendredi dernier. En revanche, on laisse les bougies, les bouquets de fleurs, les roses blanches notamment déposées là depuis 3 jours. Les petits mots, on ne vous oubliera jamais ou pourquoi fallait-il qu'il meure? Ces mots dommages sont toujours là. On voit encore ce matin aussi des touristes venir se recueillir sur les lieux. Se recueillir, Bruno, ou bien sortir leur téléphone portable pour prendre un cliché de cette fameuse plage, de ces fameux transats où sont mortes des dizaines de personnes. On a même vu certains touristes faire des selfies ici en chapeau de paille et maillot de bain, comme si la plage de l'Impérial Marabat était devenue finalement la nouvelle attraction touristique du coin.
Anne Lamotte, merci. Vous étiez en direct de Sousse avec les moyens techniques de Georges Thau. Pendant des années, la Tunisie a peut-être estimé qu'elle était à l'abri du danger islamiste, le pays étant le plus avancé du monde arabe pour les droits des femmes et les libertés, la révolution du jasmin étant même la seule réussite du printemps arabe. Pourtant, de nombreux Tunisiens sont partis faire le djihad en Libye ou en Syrie et Irak, et l'extrémisme religieux n'épargne pas le pays. Écoutez l'analyse d'Yves Aubin de la Messusière, ancien ambassadeur de France en Tunisie de 2002 à 2005, il répond à Mathieu Péris.
Je n'ai pas entendu ce discours de naïf des autorités tunisiennes qui disaient « mais la menace, elle existe ». Donc il y a des groupes qui sont sous forme de maquis dans des monts près de Chambi, près de l'Algérie. Il y a aussi la proximité évidemment de la Libye. Et peut-être la menace la plus importante, c'est concernant ces djihadistes qui ont fait leur djihad, soit en Afghanistan, au Yémen, en Irak et en Syrie. C'est la deuxième nationalité, il y a des retours. Maintenant, le problème qui se pose, il y a une responsabilité de Nahda, et qui, lorsqu'il était en responsabilité, par faiblesse, parce que même ces salafistes font partie, disons, de leur vivier électoral. Et lors de la chute, après la chute du régime de Ben Ali, de très nombreuses mosquées ont été prises en charge, alors que les imams à l'époque de Ben Ali étaient nommés par le régime, donc ce sont des imams autoproclamés, donc salafistes. Enfin, il était temps que maintenant le gouvernement prend cette mesure pour contrôler ces mosquées, mais avec le risque effectivement de retour à un régime sécuritaire.
L'auteur présumé de l'attentat suicide au Koweït sera de nationalité saoudienne, une annonce ce matin des autorités koweïtiennes. Par ailleurs, la police a arrêté le chauffeur de la voiture ayant conduit le kamikaze, ainsi que le propriétaire de la maison où se cachait ce chauffeur. L'attentat vendredi dans une mosquée chiite de Koweït City a fait 27 morts et 227 blessés. Et puis on apprend à l'instant un attentat suicide au Nigeria. Un kamikaze s'est fait exploser devant une léproserie à Maïdiguiri. Le bilan est d'au moins 5 morts et 10 blessés. Les forces kurdes ont chassé de Kobané en Syrie à la frontière avec la Turquie les djihadistes du groupe État islamique. Mais les Kurdes ont constaté que les djihadistes avaient massacré en 48 heures plus de 200 civils, dont des femmes et des enfants. Plus à l'est, à Asaké, les forces kurdes ont rejoint les forces du régime pour repousser les djihadistes. On fait le point avec Sibyl Risque depuis Beyrouth.
C'est un véritable massacre que se sont livrés ces dernières heures les djihadistes du groupe État islamique dans le nord de la Syrie. Plus de 200 civils, dont des femmes et des enfants, ont été tués à Kobané, cette ville proche de la frontière turque qui est depuis des mois un point de fixation entre les djihadistes et les Kurdes du nord de la Syrie. En janvier dernier, l'État islamique avait été chassé de Kobané par les forces kurdes à l'issue de violents combats qui ont pratiquement détruit la ville. Mais les djihadistes qui contrôlent un vaste territoire dans cette partie de la Syrie ont fait une attaque surprise jeudi à la fois sur Kobané et sur Hasaké, le chef-lieu de la province du même nom à la frontière turque. Dans les deux cas, les forces kurdes ont réussi à repousser l'assaut, mais les victimes se comptent par dizaines, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, principal observateur du conflit syrien depuis 2011. Selon les analystes, il semble que l'offensive des djihadistes sur Kobané et Hasaké n'était pas destinée à reprendre ces villes, mais plutôt à venger les derniers revers militaires de l'État islamique face aux Kurdes, positionné à une cinquantaine de kilomètres au nord de Raqqa, le principal fief des djihadistes en Syrie.
Trois morts cette nuit à Bujumbura, au Burundi, à la veille d'élections législatives et communales contestées et boycottées par l'opposition. Deux personnes ont été tuées par balles par des policiers et un soldat aurait été tué accidentellement par un autre militaire suite à l'explosion d'une grenade lors d'une intervention dans un foyer. Le pouvoir burundais a exclu tout nouveau report des scrutins en dépit des appels de l'opposition et de la pression internationale. La situation est toujours tendue en Arménie où depuis le 19 juin, des manifestations se déroulent quotidiennement dans les rues de la capitale Yerevan contre la décision du pouvoir d'augmenter de 16% le prix de l'électricité. Hier soir, le président arménien Serge Sarkissian a promis que l'État allait porter le poids de la hausse du prix de l'électricité. Mais visiblement, cela n'a pas convaincu les manifestants. Ils étaient encore 10 000 hier soir devant le palais présidentiel dans le centre d'Erevan. Un temps toujours ensoleillé et chaud sur l'ensemble du pays cet après-midi. Les températures iront de 18 degrés en Normandie à 29 degrés dans la région parisienne au nord de la Loire et de 24 degrés au Pays Basque à 33 en Roussillon pour la moitié sud du pays.